France Culture, le journal est présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Dernier jour de vote pour les 112 millions d'électeurs russes. Vladimir Poutine est à quelques heures d'une nouvelle victoire à la présidentielle en Russie. Ses partisans sont fortement mobilisés, vous l'entendrez. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine se poursuit et à mesure que le conflit s'éternise, la question de la place des mutilés de l'armée dans la société à leur retour dans la vie civile est de plus en plus importante. Dans l'actualité également, en France, la journée nationale des aides à domicile ce dimanche, l'occasion de mettre en lumière le casse-tête du financement de ces soignants indispensables. Et puis la culture et la musique pour sortir de la précarité avec un concert organisé pour plusieurs centaines de personnes aidées par Emmaüs. Ce n'est pas tant qui, mais avec quel score que les Russes se préparent ce soir au dévoilement des résultats de la présidentielle. Dernier jour de vote en Russie, Vladimir Poutine sera réélu ce soir sans surprise. Et ce n'est pas les quelques incidents relevés dans des bureaux de vote qui empêcheront le président de prendre à nouveau la tête d'un pays sur lequel il règne en maître absolu depuis 1999. Un reportage dans un bureau de la banlieue de Moscou, Sylvain Tranchet.
Contrôle de sécurité serré à l'entrée de ce petit bureau de vote de la banlieue de Moscou. Après les incidents de ces derniers jours dans plusieurs bureaux, ils sont 7 policiers pour 5 électeurs dans le local. L'ambiance est morose, mais les habitants du quartier viennent remplir leur devoir de citoyen, comme ils disent. Galina, 70 ans, veut que la guerre en Ukraine s'arrête et elle croit en son candidat pour y parvenir. Galina adore Vladimir Poutine.
Il est intelligent, lettré, il est tellement... je ne sais pas, il parle aux jeunes. Il a tellement de choses dans la tête. C'est un ordinateur. Il faut se souvenir de tout, de tous les chiffres, de tout, de tout. Poutine, je n'ai besoin de personne d'autre. Je ne le cache pas, je suis pour Poutine.
Juste après elle, Anton vient lui aussi remplir son devoir. Lui aussi vote Vladimir Poutine parce qu'il est attaché à la stabilité, dit-il.
Je veux juste que ma génération vive normalement. La stabilité, c'est ce qu'il nous faut. Oui, il a fallu réduire un peu les dépenses, mais la situation s'améliore. La stabilité est là et tout va bien.
Dans ce quartier populaire de Moscou, le maître du Kremlin réalise traditionnellement de bons scores. Ce sera encore le cas ce soir.
Seule ombre qui pèse sur sa victoire triomphale, la résistance ukrainienne qui multiplie ces derniers jours les attaques terrestres et aériennes en territoire russe. Ce matin, l'armée russe affirme avoir abattu dans la nuit 35 drones ukrainiens qui volaient au-dessus de plusieurs régions russes, dont celle de Moscou. Dans le sud, dans la région de Krasnodar, un drone a provoqué un incendie dans une raffinerie, cible stratégique visée par Kiev. Un homme serait mort suite à cette attaque. Et si les drones sont privilégiés ces derniers jours, l'armée de terre reste mobilisée sur le front. Depuis le début de l'invasion russe, des milliers d'Ukrainiens sont revenus du front grièvement blessés, amputés d'un bras ou d'une jambe. Le pays doit aujourd'hui leur faire une place dans la société. Certains l'ont trouvé dans le célèbre club de football du Shakhtar FC qui vient de créer une équipe de foot pour personnes amputées. Camille Magnard a assisté à l'un de leurs premiers entraînements à Kiev.
Bogdan a 26 ans et il a toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Mais il y a eu la guerre et cette blessure qu'il a fauchée du côté de Bakhmout l'été dernier.
J'ai eu toute la partie gauche de mon corps déchirée. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Mais j'ai survécu. J'ai passé 3 jours dans le coma et je me suis réveillé.
Porter le maillot du prestigieux Shakhtar pour Bogdan, c'est la possibilité inespérée, dit-il, d'une nouvelle vie, même s'il a dû un peu revoir ses ambitions.
Je joue gardien de but. C'est la règle dans le foot pour les amputés. Ceux qui ont perdu un bras jouent gardien et ceux qui ont perdu une jambe sont joueurs de champ.
Derrière, il y a un enjeu majeur pour l'Ukraine, celui de faire une place dans la vie civile à ces milliers d'Ukrainiens qui reviennent du front mutilés. La prochaine étape, explique le directeur stratégique du club Yuri Sviridov, c'est de créer un championnat national de football pour amputés.
Non, il n'y en a pas encore, mais on espère que d'autres clubs ukrainiens vont rejoindre notre initiative. À l'étranger, c'est très développé, les plus grands clubs ont leur équipe d'amputés. On espère qu'un jour, on pourra les affronter.
D'ici là, il va falloir s'entraîner 2 à 3 fois par semaine et renforcer aussi l'équipe. D'autres joueurs doivent arriver dès qu'ils pourront sortir de l'hôpital.
Camille Magnard. Emmanuel Macron persiste. Des opérations terrestres en Ukraine par les Occidentaux seront peut-être nécessaires à un moment donné, c'est ce qu'explique à nouveau le président au journal Le Parisien, entretien réalisé réalisé dans l'avion qui le ramenait à Paris après un sommet à Berlin vendredi avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre polonais Donald Tusk. Rencontre pour apaiser les tensions avec ses alliés concernant justement la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. C'est son devoir, dit Emmanuel Macron, de se préparer à tous les scénarios. Au Proche-Orient, un second navire d'aide humanitaire se prépare à partir de Chypre direction Gaza. Au lendemain du déchargement d'une première cargaison de 200 tonnes de vivres dans l'enclave à destination des Gazaouis qui meurent de faim et qui vivent pour certains réfugiés au sud, sous la menace de plus en plus concrète d'une opération militaire israélienne sur la ville de Rafah. L'Organisation mondiale de la santé exhorte aujourd'hui Israël à renoncer à un assaut sur la ville au nom de l'humanité. Et puis les cabinets de guerre et de sécurité israéliens sont convoqués aujourd'hui par Benjamin Netanyahou sur un autre sujet, la position que défendra la délégation israélienne qui se rendra prochainement au Qatar pour tenter de négocier avec le Hamas un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. La réponse de Bruxelles à la crise agricole jugée comme une avancée par la FNSEA en France. Vendredi, la Commission européenne avait proposé des mesures pour alléger drastiquement les règles environnementales de la politique agricole commune. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, salue cette décision. Il reste toutefois dans l'attente de la déclinaison des mesures annoncées par le gouvernement ces derniers mois afin de calmer les agriculteurs mobilisés sur les routes. La réunion avec le syndicat prévue mardi à l'Elysée est d'ailleurs reportée car les conditions pour sortir de la crise agricole ne sont pas réunies, dit Arnaud Rousseau. En France, c'est la journée nationale des aides à domicile, un secteur crucial pour le maintien chez eux des personnes âgées ou dépendantes. Auxiliaires de vie, aides-soignantes et infirmières, on l'a particulièrement vu pendant la crise sanitaire, sont des métiers indispensables et pourtant toujours difficile, peu attractif, peu valorisé selon les professionnels. Par ailleurs, le financement des aides à domicile reste un casse-tête, comme le déplore Alexandra de Botton. Elle est directrice générale de l'ASMA, d'une association qui emploie des aides à domicile dans l'Indre.
Pour financer une aide, les caisses de retraite peuvent aider à financer l'entretien du logement et le conseil départemental peut aider à financer l'aide à la personne. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que les deux ne peuvent pas se mélanger. C'est-à-dire que soit on a des aides pour nettoyer sa maison, soit on a des aides pour s'occuper de soi. On ne peut pas avoir les deux. Et puis, il faut aussi savoir que les caisses de retraite ne financent pas le coût réel que nous coûte une intervention. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, beaucoup de services à domicile sont en déficit, beaucoup mettent la clé sous la porte parce que notre coût de production est supérieur à notre rémunération. On travaille à perte. Et c'est aussi pour ça que nous, en tant qu'employeurs, on ne peut pas revaloriser autant qu'on aimerait. On ne peut pas acheter des véhicules à tous nos salariés. On ne peut pas mieux les rémunérer parce que notre budget est financé par ces heures-là qui sont en dessous de ce qu'elles nous coûtent réellement.
Alexandra de Botton au micro d'Alexandre Motto. Son créateur, l'abbé Pierre, n'est plus là pour saluer son travail ou déplorer, hélas, son utilité encore aujourd'hui. L'association Emmaüs Solidarité fête aujourd'hui son 70e anniversaire. Fondée le 17 mars 1954, quelques semaines après l'appel à la solidarité lancé par l'abbé Pierre pour faire face à l'hiver dramatique. Aujourd'hui, l'association héberge et accompagne vers l'insertion plus de 7000 personnes en grande précarité et des centaines d'entre elles ont pu oublier leur situation cette semaine, le temps d'un concert de l'Orchestre de Chambre de Paris donné dans la capitale. C'est un reportage de Louis-Valentin Lopez.
Les spectateurs arrivent par petits groupes sous la grande verrière. Ils s'assoient par terre ou bien sur des coussins tout près de la scène. Tous sont à la rue ou hébergés par Emmaüs Solidarité.
Je m'appelle Khadija Khan, je suis mauritanienne.
Vous êtes déjà allé à un concert de musique classique ou pas?
Non, c'est pour la première fois. Je m'appelle Edwige. Je vois à la télé la musique classique. Je voulais voir comment ça se passe. Ça déstresse.
Sur le côté, les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris s'échauffent. La formation a créé des liens étroits avec Emmaüs Solidarité. Venez jouer dans les centres d'hébergement d'urgence, notamment pendant le Covid. Toucher les publics éloignés, c'est un devoir pour Franck Delaval, violon solo.
Pendant un moment donné, on suspend quelque chose. Et puis on est là, on va jouer un peu de Carmen, un peu de Beethoven, on va jouer Rossini.
Les yeux s'écarquillent, des sourires apparaissent sous le regard de Lotfi Wanezar, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
La culture est un axe fondamental dans l'accompagnement au sein d'Emmaüs Solidarité. C'est un langage universel qui est un outil formidable d'accompagnement.
Juste à côté, assis sur un banc, Laurent confirme, handicapé de la jambe droite, il réside dans un centre Emmaüs.
Ah, mais la musique classique, c'est quand même le début de la musique. C'est normal que nous adorons tous cette musique-là.
Ça m'a transporté. J'ai adoré.
Et la programmation culturelle promet d'être riche. Ce premier semestre d'anniversaire, une exposition au Transfo dans le 10e arrondissement sur la musique solidaire et contestataire. Avant la deuxième édition du festival d'Emmaüs Solidarité, ce sera le 8 juin prochain au Fort d'Aubervilliers.
Le temps aujourd'hui, pluvieux sur la moitié nord, gris au sud avec quelques rayons de soleil sur les Pyrénées. Côté température, entre 14 et 18 degrés au meilleur de la journée.